pensée de cette mystérieuse inconnue. Il sentit la main de Myriam passer sur ses genoux et se poser sur sa cuisse. « Heureuse année, chérie !» lui chuchota la belle. Il eut l'impression que son pied gauche lui caressait le mollet, puis le genou. « Coucou, mystère !» dit Consuelo sous la table. Cette fois, elle n'y était pas venue toute seule. Pedro s'y était glissé avec elle. Juan Diego baissa les yeux vers eux. Josefa ne les avait pas vus. Penchée par-dessus la table, elle échangeait des signes cabalistiques avec Clark. Myriam regarda sous la table à son tour et découvrit les enfants. « La dame, je crois qu'elle aime pas les geckos, mister, » avança Pedro. « Je crois qu'il lui manque pas à elle, » dit Consuelo. « Je ne les aime pas dans mon ceviche, » leur répondit Myriam. « Il ne me manque pas dans ma salade. »«
Qu'est-ce que vous en pensez, mister ? Qu'est-ce qu'elle en aurait pensé, votre sœur ?» demanda Consuelo.
« Ouais, qu'est-ce que... »
allait dire Pedro, mais Myriam se pencha vers eux pour que son visage soit au niveau du leur.
« Écoutez-moi, vous deux. Ne lui demandez pas ce que pense sa sœur. Sa sœur a été tuée par un lion. »
Les enfants détalèrent sans demander leur reste. « Je ne voulais pas qu'ils fassent des cauchemars, » aurait voulu expliquer Juan Diego à Myriam. « Je ne voulais pas leur faire peur. » Mais les mots s'étranglaient dans sa gorge. C'était comme s'il avait vu le visage de Lupe sous la table. Pourtant, la petite fille Onate était bien plus jeune qu'elle à sa mort. Ses yeux s'embuèrent de nouveau, mais cette fois, il savait que le Viagra n'y était pour rien. « J'ai la larme à l'œil, » dit-il à Myriam. Puis, se tournant vers Josefa, qui venait de lui prendre le bras, « Je vais bien, je n'ai aucun problème, je pleure, c'est tout. »«
Mais bien sûr, chérie, naturellement, » lui dit Myriam en lui prenant l'autre bras. Elle lui embrassa la main. « Où est cette mignonne enfant avec des nattes? Faites-la venir !» intima-t-elle à Josefa.
« Consuelo ?» appela celle-ci. La fille accourut, Pedro sur ses talons.
« Vous voilà, vous deux !» s'écria Myriam.
Elle lâcha le bras de Juan Diego pour attirer les enfants à elle.
« N'ayez pas peur !» leur dit-elle. « Monsieur Guerrero est triste à cause de sa sœur. Il pense tout le temps à elle.
Ça vous ferait pleurer, vous aussi, si votre sœur avait été tuée par un lion ?»
Oh oui !» s'exclama Consuelo.
« Sûrement !»
déclara Pedro, qui semblait pouvoir s'en remettre le cas échéant.
« Eh bien voilà. C'est ce qu'éprouve M. Guerrero. Elle lui manque ?»«
Elle me manque, oui. » réussit-il à dire aux enfants. « Elle s'appelait Lupe. »
Le jeune chauffeur-serveur lui avait apporté une bière et restait planté là, ne sachant qu'en faire.
« Posez-moi ça ici !» lui dit Myriam.
Et il s'exécuta. Consuelo était grimpé sur les genoux de Juan Diego.
« Ça va aller, » lui disait-elle en tirant sur ses nattes alors qu'il n'en finissait pas de pleurer. « C'est rien, c'est rien !»
Myriam prit Pedro dans ses bras. Il la regardait d'un air mi-figue mi-raisin, mais elle vint vite à bout de ses hésitations.
« Et toi, Pedro, qu'aimes-tu? Qui te manquerait ?» lui demanda-t-elle.
« Qui est cette femme? D'où vient-elle » s'interrogeaient les adultes, et Juan Diego avec eux. Il la désirait, il était troublé de la revoir, mais qui était-elle et que faisait-elle ici? Et pourquoi les magnétisait-elle tous, enfants compris, alors même qu'elle leur faisait peur?
« Moi, » dit Pedro, les sourcils froncés par la concentration, « mon père me manquerait.
Il me manquera un jour de toute façon. »«
Oui, bien sûr, c'est exactement ce que je veux dire, » lui expliqua Myriam.
L'enfant parut pris de mélancolie. Il se blottit sur Myriam qui le nicha contre son sein.
« Tu es un petit garçon intelligent !» lui chuchota-t-elle.
Il ferma les yeux dans un soupir. Cette scène de séduction avait quelque chose de quasi obscène. La table et toute la salle semblaient muettes.
« Ça me fait de la peine pour vous, mister !» dit Consuelo à Juan Diego.
« Ça va aller !» répondit-il.
Le jeune chauffeur, celui qui semblait si peu sûr de lui, murmura quelques mots en tagalog à Josefa.
« Oui, oui, bien sûr, servez le plat principal, quelle question !» lui assura-t-elle.
Personne n'avait encore coiffé son chapeau de cotillon, il était trop tôt.
« Regardez Pedro !» dit Consuelo en riant. « Il s'est endormi !»«
Oh, c'est trop mignon !» dit Myriam en souriant à Juan Diego.
Le petit dormait à poings fermés, tête contre son sein. C'était tellement inhabituel pour un enfant de cet âge de s'endormir sur les genoux d'une parfaite inconnue, inquiétante de surcroît.
Qui est-elle ?
Se demanda une fois de plus Juan Diego sans pouvoir s'empêcher de lui rendre son sourire.
Peut-être se posait-il tous la même question. N'empêche que personne ne dit ni ne fit quoi que ce soit pour mettre un terme à son jeu.
Chapitre 18. Le pouvoir du désir. Longtemps après avoir quitté Huachaca, Juan Diego était resté en contact avec Frère Pepe. Tout ce qu'il savait de sa ville natale depuis le début des années 70 était en grande partie le fruit de leur fidèle correspondance. Malheureusement, il ne se souvenait pas toujours du moment où Pepe lui avait transmis telle ou telle information importante. Pour celui-ci, chaque événement en lui-même, chaque changement comptait, ainsi que ce qui ne changeait pas et ne changerait jamais. Durant l'épidémie de sida, Frère Pepe avait évoqué dans un courrier le bar gay de Bustamante. Mais était-ce à la fin des années 80 ou au début des années 90, Juan Diego était incapable de s'en souvenir.
« Oui, ce bar existe toujours et c'est toujours un bar gay », avait écrit Pepe.
Il faut croire que Juan Diego lui avait posé la question. Mais ce n'est plus la China, il s'appelle désormais Chinampa. À peu près à la même époque, Pepe avait écrit que le docteur Vargas partageait le sentiment d'impuissance de la communauté médicale. Ça ne servait pas à grand-chose d'être orthopédiste en pleine épidémie de sida. Les médecins ne sont pas formés pour assister leurs patients jusqu'à leur décès. La câlinothérapie n'est pas notre affaire, disait-il. Et d'ailleurs, il n'était même pas concerné par les maladies infectieuses. Cela lui ressemblait bien à lui, l'éternel exclu qui avait échappé à l'accident d'avion dans lequel ses parents avaient trouvé la mort. La lettre de Pepe concernant la coronita était arrivée dans les années 90, si Juan Diego avait bonne mémoire. Le rendez-vous des travestis avait fermé quand son propriétaire Homo était mort. Et lorsque la petite couronne avait rouvert, l'endroit s'était agrandi et doté d'un étage. La coronita était à présent le lieu de prédilection des prostituées travestis et de leurs clients. Plus question d'attendre d'être au bar pour se changer, les travestis étaient déjà femmes en entrant dans les lieux, sous-entendait Pepe. À cette époque, Pepe se consacrait aux soins palliatifs. Contrairement au docteur Vargas, il était doué pour la câlinothérapie. Et l'orphelinat des enfants perdus avait depuis longtemps mis la clé sous la porte. Hogar de la Niña, le foyer de la jeune fille, qui avait ouvert en 79, était situé dans les environs de Cuauhtémoc, pas très loin de Viguera. C'était le pendant féminin de la cité des enfants, que Lupe appelait la cité des garçons. Pepe avait travaillé au foyer de la jeune fille pendant toutes les années 80 et au début des années 90. Pepe n'avait pas l'habitude de dire du mal d'un orphelinat, mais il avait trouvé les filles ingérables. Il s'était plaint à Juan Diego de leur cruauté les unes envers les autres. Le culte qu'elle vouait à la petite sirène de Walt Disney l'agaçait. Il y avait des décalcomanies grandeur nature de la petite sirène dans le dortoir. Elles étaient plus grandes que le portrait de Notre-Dame de Guadalupe, déplorait-il. C'était le genre de grief que Lupe aurait formulé. Il avait joint à sa lettre la photo d'un groupe de filles dont les robes trouvées au décrochez-moi ça se boutonnaient par derrière. Il se plaignait que les filles n'avaient pas jugé bon de les boutonner, ces robes, ce que Juan Diego ne pouvait pas voir sur le cliché. En dépit de ces petites récriminations, Frère Pepe persistait à se dire soldat du Christ, titre que Seigneur Eduardo aimait revendiquer pour lui et ses frères jésuites. À vrai dire, il était au service des enfants. C'était sa vocation depuis toujours. D'autres orphelinats s'étaient établis en ville. Après le départ des enfants perdus, il y en eut de nouveaux. Certes, sans les exigences du père Alfonso et du père Octavio en matière de pédagogie, mais des orphelinats tout de même. Huachaca en compta bientôt un certain nombre. À la fin des années 90, Frère Pepe proposa ses services à l'albergue Josefino de Santa Lucia del Camino. L'établissement avait ouvert ses portes en 93 et les religieuses accueillaient les filles mais aussi les garçons, à condition que ces derniers aient moins de 12 ans. Juan Diego n'avait pas très bien compris qui étaient ces religieuses et Frère Pepe ne prit pas la peine de le lui expliquer. Elles portaient le nom de Madres de los Desamparados, Mères des Délaissés,
aurait traduit Juan Diego, qui trouvait que dès